j'ai fait des petits portraits aussi.
On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran.
Quelques portraits subjectifs, quoi. Enfin,
Moi, je comprends que
les gens tels que je les ai vus en les rencontrant.
Que les journalistes, à un moment, disent « Ah bah oui, ça continue ». C'est vrai que c'est côté lancinant.
Passé de quelques secondes sur les 3-8, en direct et en public depuis le Transistor, nouveau lieu partagé par Grenouille et Zinc à la friche La Belle de Mai, pour ce premier plateau radio dans la thématique autour de Terre commune. Terre commune, je vous le rappelle, c'est un web-documentaire d'Emmanuel Vigier que vous pouvez découvrir depuis quelques jours sur terrecommune.fr. Un web-doc consacré à l'action de collectifs singuliers qui, à Marseille et Paris, se mobilisent pour dénoncer les morts de la rue et organiser des funérailles pour les accompagner dignement dans leur dernière demeure. On en parlera tout à l'heure, au cours de ce plateau, intitulé « Exercice de la solidarité ». Un plateau qui réunit différents acteurs de la lutte contre la précarité et l'exclusion à Marseille pour mettre en débat la complémentarité de leurs actions. Et je vous présente sans plus tarder nos invités, Fatih Young, qui nous parlera du Hameau, un lieu de vie pour des personnes sorties de la rue, situé dans le 3e arrondissement, un village plutôt qu'un lieu de concentration, un lieu géré par l'armée du salut qu'on dit parfois atypique, et on découvrira dans un instant pourquoi. Cécile Roca représente le collectif des morts de la rue, une association parisienne, et Patrick Perret représente Marseillais solidaires des morts anonymes, deux initiatives qui alertent l'opinion sur le nombre de SDF qui, chaque année, meurent dans la rue et organisent des funérailles pour les accompagner. Jo Ponceau représente, quant à lui, la fondation Abbé Pierre, dont on ne présente plus l'action, sinon en rappelant qu'elle fut fondée précisément pour alerter l'opinion sur le fait qu'il est insupportable aujourd'hui que des gens meurent encore de froid et de misère dans nos rues. Enfin, Michel Bourga est adjoint au maire de Marseille, en charge de la lutte contre l'exclusion, de l'unité d'hébergement d'urgence et du SAMU social. Bonjour à toutes et à tous. Et peut-être quelques mots avant de lancer le débat pour préciser que son organisation n'a pas forcément été très simple. Nombre d'acteurs sociaux et de santé sont en effet assez réticents à s'installer autour d'une même table de discussion. Et on a cru comprendre qu'à Marseille particulièrement, les attentes des uns et des autres sont parfois plus divergentes que complémentaires. Ce qui nous conforte d'ailleurs dans l'idée qu'un débat est utile, ne serait-ce que pour éclairer quelques-unes de ces différences d'approche, parce qu'en attendant, la colère gronde. En témoigne ce son, issu du webdoc Terre commune.
Et j'espère que tout le monde va me mettre, et j'espère que les médias, vous allez me mettre à la télé, et qu'un jour je vais vous péter vos caméras. Il y a plus de caméras que de morts ici, et les morts qui m'entendent, l'abbé Pierre, Coluche, venez à mon aide, Dieu soit avec moi. Mais ça n'arrivera plus le jour où on mettra les gens à l'abri la nuit et qu'on a lâche pas le matin à 7h dans les rues en plein froid.
On est d'accord.
Et ben pourquoi vous faites rien?
On fait quelque chose.
Vous faites quoi? Vous tout bloquez. Vous tout bloquez, personne ne fait rien. On ramasse les gens le jour où ils sont morts.
Un extrait de Terre commune à retrouver sur terrecommune.fr. Commençons, si vous le voulez bien, ce débat par quelques éléments factuels. Que chacun voit midi à sa porte, ça on le comprend, reste qu'au-delà des différentes sensibilités des uns et des autres, une réalité reste implacable, c'est le nombre des personnes concernées, des sans-abri à Marseille. Alors, une évaluation du nombre des sans-logis qui a été réalisée en 2008 à travers un rapport de la Fondation Abbé Pierre faisait état de 3 à 5000 personnes environ à la rue et plusieurs dizaines de milliers dans des conditions de logement indécentes. Aujourd'hui, en 2012, il semble que ce chiffre soit, du moins pour ce qui concerne les SDF, en nette augmentation. On évoque en effet aujourd'hui un chiffre de 10 000 à 12 000 sans-abri dans les rues de Marseille. Alors première question, est-ce que les uns et les autres, ce chiffre vous paraît réaliste? Jo Ponceau, Michel Bourga, Fatih Young... Michel Bourga.
Je vais... les chiffres, je ne suis pas non plus un expert, mais ce que je peux vous donner, c'est déjà les chiffres qu'on a de nos interventions sur l'unité d'hébergement d'urgence. où on a traité plus de 4128 personnes différentes sur 96 000 nuitées. 96 000 nuitées, c'est un chiffre qui m'effraie parce que je pense qu'il y a des grands hôtels qui aimeraient les avoir sur le plan de leur rentabilité.
Nous, sauf que là, c'est un peu moins confortable.
Voilà, nous, c'est l'horreur. Hein, c'est quelque chose de très compliqué, très dur. Et ça veut dire que bon, il y a au moins 4100 personnes différentes qui ont, en 2011, puisque c'est des chiffres de 2011, ont été hébergées à l'unité d'hébergement. Alors, c'est des chiffres que j'ai après.
Mais sur ce chiffre de 10 000 SDF à Marseille, alors, est-ce qu'il vous semble cohérent? Et est-ce que vous avez mené une étude pour
le préciser ? Il me semble un peu grand par rapport à ce que j'avais eu, mais il n'y a pas de chiffre, à moins que peut-être à la Fondation Abbé Pierre ou des acteurs qui sont sérieux sur le terrain puissent nous donner des chiffres, mais c'est un peu compliqué. Ce qu'il y a, c'est que nous, au SAMU social, on a entre 100 et 120 appels et interventions par jour et qu'on fait 50 000 déplacements. Quoi, voilà.
Joseph Ponceau ?
Alors, pas tout à fait des personnes sans abri. Mais il y a eu exactement 12 650 personnes qui ont eu recours à un moment ou à un autre dans l'année 2011 au service d'urgence. Ça, le décompte a été fait en évitant les doublons. Ça a été l'objet d'une mission qui a été coordonnée, notamment par la FNARS. Et aujourd'hui, on peut vraiment estimer que ce chiffre est fiable, puisque nous avons les éléments techniques qui nous permettent de le dire. Après, la question de l'urgence, elle peut se poser pour une nuit et elle peut se poser pour un an. Donc la difficulté après, c'est pas tant le nombre. Alors après, on pourra parler de nuitées, hein, bien entendu, on pourra parler. Mais en même temps, on pourra parler du désarroi des personnes qui se retrouvent face à un problème qui leur semble insurmontable et qui sont obligées à un moment d'interpeller les services sociaux, d'interpeller le 115 notamment, ou d'autres des associations de terrain pour essayer de trouver une solution. C'est donc 12 000 personnes qui sont effectivement dans une demande aujourd'hui.
Un chiffre qui dénote d'une augmentation. Comment est-ce que vous analyseriez cette augmentation? Est-ce que c'est la crise du logement qui frappe particulièrement Marseille? On rappelle que les loyers ont augmenté à Marseille d'environ 40% en l'espace de ces 10 dernières années. Ça rend donc l'accès au logement de plus en plus difficile. Et que par ailleurs, il ne semble pas que les logements sociaux soient suffisamment accessibles, notamment pour des personnes dont les ressources sont particulièrement réduites. Alors comment est-ce que vous analysez cette précarisation galopante ? Joseph Ponceau, peut-être pour continuer sur cette question.
Tout d'abord, les effets d'une crise, on ne peut pas nier aujourd'hui, mais c'est une crise qui a été provoquée par les banques. Et aujourd'hui, on demande aux pauvres de payer ce que les riches ont risqué. Donc ça, déjà, je pense qu'il faut le poser un peu en ces termes. Après, sur Marseille, quand on augmente les taxes de 13% en un an, et ça, c'est les chiffres de 2011, quand on augmente, c'est une hausse, une taxe, alors que dans le même temps, les personnes qui vivent à Marseille n'ont pas vu leur revenu augmenter d'autant. Donc, c'est une taxe pour avoir le droit de vivre à Marseille. Et c'est une taxe qui, à mon sens, a été mise en place pour justement que les personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir y rester soient un peu rejetées en dehors de l'hypercentre, en tout cas de l'hypercentre. Autre élément qui me permet de dire que le souhait aujourd'hui est d'éliminer la pauvreté du centre, c'est bien tout ce qui est de l'ordre de l'actualité, à les arrêter en timendicité, mais pas seulement ça.
On va en reparler dans un instant.
Alors on va y aller.
Peut-être justement, Cécile Roca, sur un rapide comparatif entre la situation à Marseille et celle qu'on peut rencontrer à Paris. Vous êtes, je rappelle, parisienne. Est-ce qu'on assiste à ce même phénomène d'une augmentation du nombre de SDF et de sans-abri à Paris ?
Alors je ne suis pas très douée pour vous dire le nombre précis de personnes sans domicile à Paris. Mais oui, il y a une augmentation et une évolution importante. C'est-à-dire de plus en plus de familles se retrouvent à la rue. Donc cette composition change beaucoup. Et la manière d'y répondre, donc actuellement, les FNARS le reconnaissent, qu'elles arrivent à répondre par rapport aux demandes d'hébergement à environ un quart des demandes au niveau national. Et à Paris, plutôt à moins, c'est-à-dire entre 15 et 20 %. sur les appels qu'ils arrivent à recevoir et qui sont des demandes d'hébergement, ils n'arrivent à répondre qu'à 15 à 20%. Et sur ces 15 à 20%, la majorité sont des familles et des personnes avec enfants. Donc il y a une recomposition des personnes qui sont à la rue, qui ne sont plus des personnes isolées comme c'était le cas avant.
Cette question du logement, elle est évidemment centrale. Fatih Young, je vous propose de prendre ce micro et évidemment de nous dire à quel point cette question est cruciale, et notamment en faisant écho à un concept américain, je crois, c'est celui de housing first, c'est-à-dire d'abord donner un logement. La première chose à faire, finalement, pour quelqu'un qui est en situation de grande précarité, c'est de garantir son logement. Vous êtes d'accord avec cette idée, Fatih Young ?
J'ai un avis partagé, donc on pourra en reparler aussi. Par contre, je voulais réagir par rapport aux personnes qui étaient à la rue. Il y a quand même aussi... Enfin, on a remarqué que le public avait changé pas mal. Donc il y a beaucoup plus de jeunes. Il y a des personnes qui sortent des hôpitaux, qui sont pas, enfin, qui étaient en soins jusqu'à présent, et donc il y a moins de places en hôpital et psychiatrique. Donc dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc par définition doivent faire de la réinsertion sociale, elles n'arrivent plus non plus à remplir ces missions. Donc il y a pas de turnover, il y en a moins en tout cas, et pas dans les missions en fait qui étaient les nôtres à l'époque. Je ne parle pas du hameau là, puisque ça, c'est un dispositif complètement différent. Mais je parle du CHRS pour lequel j'ai travaillé une dizaine d'années, par exemple. Donc, c'est ce que je voulais dire, un petit aparté à ce niveau-là.
Deux, trois mots sur l'adéquation ou peut-être l'inadéquation de ces lieux d'accueil. Et on va en même temps rentrer là dans le vif du débat. Les conditions d'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence sont effectivement très souvent décriées, d'où d'ailleurs l'apparition d'alternatives comme le hameau. Alors Fatih Young, sur les raisons qui ont amené à la création de ce lieu, justement le hameau, et peut-être décrire un petit peu en quoi ça consiste, c'est quoi le hameau ?
Alors en fait les raisons, elles sont simples. Hein. On s'est aperçu à l'Armée du Salut que, comme je viens de vous le dire, hein, on était sur des missions plus de d'hébergement. Il y a un public qu'on ne touchait pas, qu'on ne touchait jamais. C'est ce qu'on appelle les grands marginaux. Donc moi je dirais c'est les gens qui vivent durablement à la rue et qui ne demandent plus rien. Donc ils sont sortis vraiment du circuit, et on fait le tour des circuits, hein, connaissent bien la Madra, connaissent bien les foyers, et qui en sont sortis de ces circuits, et donc on peut leur proposer quoi que ce soit, elles ne souhaitent pas. Elles ne souhaitent plus rentrer dans les foyers. Et donc on a souhaité travailler, voir si déjà c'était possible de travailler avec ce public. Et ça a consisté en fait dans un premier temps à travailler avec des maraudes qui, elle, est au quotidien dans les rues, dans les squats. Ensuite, on a pris contact et on a commencé à créer du lien avec ces personnes, et on a imaginé, on a recensé un petit peu pourquoi ces personnes voulaient plus préférer rester à la rue, quitte à en mourir. Plutôt que d'aller dans des centres d'hébergement. Et la question qui revenait régulièrement, c'était la sécurité, les chiens, les couples. Et
les chiens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans un centre d'hébergement
ou alors
si on a un
chien. On sépare les couples. Il y avait la question de l'alcool aussi. On rentre à 5 heures, on ne boit pas toute la nuit pour quelqu'un qui est alcoolique et est en manque à 6 heures du matin. C'est un fait, ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc on a essayé d'imaginer un lieu, et là maintenant, pour faire court et parler du hameau, c'est on avait un terrain 2000 m² à peu près qui appartenait à l'Armée du Salut, qui appartient toujours à l'Armée du Salut, et on y a construit une dizaine de petits chalets. Voilà, et on a fait en fait en sorte de respecter au plus près ce que les gens dans la rue voulaient surtout pas. Voilà, déjà. Donc on a éliminé à pas mal de contraintes. Dans ces chalets, donc une dizaine de petits chalets pour deux personnes, donc couple avec animaux, c'est un accueil inconditionnel. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Moi je dirais que la seule condition, voilà, ça fait sourire, c'est de vivre à la rue durablement et de ne plus faire partie des circuits d'entraide. Voilà, c'est mon job, c'est d'aller voir la personne et d'essayer de la convaincre de quitter la rue. Et pour ça, j'ai eu le temps de le faire. Ça, c'est très important hein, de dire, parce qu'on n'a pas, souvent, dans le social, on n'a pas le temps. Hein, on est guidé par des objectifs, des contrats, etc. Nous, on avait vraiment cette chance d'avoir le temps d'aller voir plusieurs fois la personne, de laisser une semaine, d'y revenir, etc. C'est tout ce travail en amont qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Que les gens ont désiré leur place au hameau suffisamment pour ne pas avoir envie de la perdre.
Et est-ce qu'au hameau, vous travaillez en synergie avec les autres centres qui sont présents à Marseille, l'UHU de la Madrague par exemple, ou bien les compagnons d'Emmaüs, ou bien est-ce que c'est vraiment une posture, une position vraiment très originale, très atypique pour le coup?
Alors on a travaillé évidemment avec toutes les maraudes de Marseille, pas le SAMU social, désolé. On a travaillé avec la Croix-Rouge, tous les bénévoles qui connaissaient en fait les personnes, et c'est eux qui nous faisaient le signalement hein, puisqu'on avait une vingtaine de places. La boutique Solidarité, évidemment, puisqu'on faisait aussi nos entretiens chez eux, hein, puisqu'on n'avait pas de locaux, on n'avait rien. Donc on allait un petit peu là où les portes étaient ouvertes et où c'était pas très conventionnel. Donc les autres structures, non. Puis je vois pas l'intérêt. C'est vraiment où les portes étaient ouvertes. Donc la boutique, les portes étaient ouvertes, on y allait, on rencontrait les gens sur place devant un café. Sinon, les maraudes de la nuit, un café dans la rue, sur un trottoir, voilà. L'idée, c'est quand même de toucher des gens qui fréquentent plus des structures. Donc, par définition, c'est ou la rue ou l'accueil de jour.
Mais peut-être qu'après être passé chez vous, aurait envie de continuer un parcours de réinsertion et qui pourrait être en lien justement avec d'autres structures, peut-être avec les compagnons d'Emmaüs, oui. Qui sait ?
Alors ça, par contre, c'est fait, puisqu'on a maintenant, on a 3 ans, hein, ça fait 3 ans qu'on existe. On a donc un monsieur qui est bénévole, qui distribue le café tous les matins, qui est en face de moi, là, ce monsieur.
Bonjour monsieur.
Voilà. Donc il a repris une activité bénévole parce que voilà, il avait envie de faire quelque chose de ses journées. J'ai une autre personne qui est bénévole aussi au Resto du Cœur. Une personne qui a travaillé pour la période deux périodes hivernales à l'accueil de jour Marceau. Donc en fait, elle s'occupait de faire des douches, de donner les vestiaires à des personnes qu'elle connaissait et en plus qu'elle connaissait de la rue de l'époque. Voilà. Donc oui, il y a des petites choses comme ça. C'est pas le but premier du hameau. Le but premier du hameau, c'est de retrouver des sensations de plaisir. Et ensuite de désirer faire autre chose, voilà.
Et à partir et puis de réinscrire probablement dans une forme de solidarité, dans un collectif, dans
on
un groupe.
On est beaucoup dans
de
la solidarité. Oui, beaucoup dans de la solidarité. Je vois pas, notamment Jojo qui est là, enfin hein, un travail rémunéré. Il est voilà, non, lui la solidarité, c'est ce qui lui plaît. Voilà, il irait très bien aussi à la SPA, s'occuper des animaux, donner, il est beaucoup dans ça. Et beaucoup au hameau le sont, en fait. Hein. C'est un autre état d'esprit, d'ailleurs.
Et pour encore mieux connaître ce qui se passe au hameau, je vous invite à écouter sur Radio Grenouille un reportage réalisé par Chez Albert, par Stéphanie Aroumian, qui sera diffusé samedi à 17h10. Tout de suite, on écoute un second extrait sonore. C'est un extrait d'un grand entretien que vous pourrez écouter vendredi à 17h10 sur les antennes de La Grenouille. Un entretien avec Claudie, usager de l'accueil de jour Consola Marceau.
En fait, avant, je suis un ancien militaire. J'ai fait le Tchad, j'ai fait le Soudan, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie, j'ai fait Tahiti, j'ai fait 2 fois l'Irak, 1 fois l'Afghanistan, où là, j'étais blessé. Donc, j'ai vu la misère à travers le monde, mais aussi la souffrance des uns et des autres. Là-bas, malheureusement, dans ces pays où j'ai pu aller, la misère, elle est grandiose. Et tout ça me pousse à faire ce que je fais. Mais en fait, j'essaie de m'aider, d'aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Donc je ramène des SDF pour que l'équipe de rue puisse les suivre. Donner un peu de temps libre à moi-même. Mon temps libre, je le donne aux gens de la rue, en fait. Et là, beaucoup de personnes me disent qu'il faut amuser l'opinion publique, mais comment? Là aussi, je me pose des questions. Et je dis, tant que l'opinion publique n'ouvre pas les yeux et tant que les personnes adéquates à des services, notamment comme le conseil général, la mairie ou même l'État n'ouvre pas les yeux sur les gros problèmes, il y aura des morts dans les rues de France.
C'était un extrait d'un entretien avec Claudie, à retrouver dans son intégralité sur l'antenne de Grenouille vendredi à 17h10. On voit bien dans ces paroles de Claudie à quel point il en appelle à une prise de conscience aujourd'hui. C'est pas le premier à le faire. J'espère que ce sera vraiment le dernier en même temps, que enfin on pourra prendre conscience de cette réalité. Michel Bourga, peut-être une réaction par rapport à ce son qu'on vient d'entendre.
Oui, la réaction, c'est que la ville, par exemple, moi je veux parler qu'au nom de la ville, après tout, je ne revendique pas d'autre poste que celui d'adjoint au maire de la ville de Marseille. Le SAMU social de la ville de Marseille est le seul SAMU social municipal de France, c'est-à-dire que c'est une volonté que le maire a eue, c'est un service municipal. Je peux dire que déjà, c'est pas une visée électorale, parce qu'on sait très très bien que le public auquel nous nous adressons, on n'aura pas de retour électoral. Donc c'est vrai une volonté d'essayer de participer à diminuer ce phénomène. Donc moi, je me refuse à politiser, parce que je pense que les causes sont bien plus graves que simplement économiques, même si les causes économiques sont prégnantes et sont majeures. Le SAMU social, ben, c'est 70 personnes qui travaillent 365 jours par an, 7 jours sur 7, de 7h du matin, on va dire, à 1h, 1h30, avec 15 véhicules qui tournent. Donc c'est un investissement qui n'est certainement pas suffisant, mais qui n'est pas négligeable. L'unité d'hébergement d'urgence, qui est une structure difficile, assez horrible. Je serais le premier à dire que c'est des circonstances dures, mais c'est aussi un budget de 3 millions d'euros où la ville investit 1,5 million d'euros pour essayer que ces 96 000 nuitées ne soient pas n'aboutissent pas justement à des morts dans la rue. Alors, nous ne touchons pas le même public que le hameau. Voilà, on touche pas le même public.
Peut-être pour préciser un petit peu mieux le fonctionnement du SAMU social, il est... C'est un mystère pour personne. Il est souvent critiqué. Oui. Et notamment sur la question de la formation de ceux qui interviennent dans ce service. Est-ce qu'ils sont vraiment formés et compétents pour aller à la rencontre des SDF? Et je dirais, pas seulement les traiter comme un paquet sur la rue. Alors, les traiter de manière compétente et humaine.
Je pense que, déjà, ce sont des volontaires. Ce sont des agents municipaux, effectivement, mais ce sont des volontaires. Et vous savez, on est critiqué quand on existe et quand on fait quelque chose. Ceux qui ne font rien ne sont jamais critiqués. Moi, je suis médecin de formation. J'ai été à Médecins du Monde, à la Mission France, dans les premières périodes de cette Mission France. Bon, j'ai toujours été attiré. Dire que je suis parfait et que je serais capable de faire des choses bien... Ben non, le SAMU social n'est pas parfait. Mais il a d'abord le mérite d'exister. Il a le mérite de traiter un gros volume de malheurs, d'éviter certainement des catastrophes. Nous ne touchons pas à la grande précarité, à la grande marginalité. C'est pour ça que j'ai été très, très attiré à l'époque par le projet du hameau. Moi, j'ai essayé simplement d'aider d'ailleurs à l'époque l'armée du salut pour qu'ils obtiennent leurs autorisations. Et j'ai tout de suite vu d'ailleurs que ce résultat magnifique du hameau, il est très intéressant parce que ce sont des gens à qui on avait dit ils sont plus réadaptables. Et simplement de les mettre dans des conditions idéales, enfin des conditions normales, c'est-à-dire un habitat, un toit, du mérite, de la considération. On a vu ces gens qu'on avait des fois classés comme totalement irrécupérables se socialiser tout seul et dans un temps qui époustouflait tout le monde. Alors, nous, notre public, c'est un autre public. C'est vrai qu'on va, on fait du grand nombre. C'est vrai qu'il y a des gens qui refusent et on comprend qu'on refuse d'aller à l'UHU parce que l'UHU, qui est géré d'ailleurs très bien actuellement par l'armée du salut, c'est notre nouveau prestataire de service, mais c'est des gens...
Depuis peu, mais on reparlera
Ils font un travail. J'étais encore avec Monsieur Nouveau tout à l'heure, qui est le directeur de l'UHU et qui appartient à l'armée du salut. Bon, nous essayons d'humaniser. On a un projet d'humanisation. C'est très, très difficile. Mais vous savez, moi, je tiens à vous dire une chose. J'ai connu, on va dire, une période avant et puis une période actuelle. Eh ben, je dois vous dire que, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup plus de difficultés financières que ce que j'avais il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Pour les gens du voyage, pour d'autres types d'exclus, parce que ma délégation ne s'occupe pas uniquement du SAMU social et ne s'occupe pas uniquement de l'unité d'hébergement d'urgence. J'ai aussi les gens du voyage. Je suppose que nous parlerons des Roms. Les moyens que j'avais il y a 2 ans sont en totale diminution, voire en extinction absolue. Actuellement. Donc le problème, il est très compliqué. Et ce qu'il faudrait, c'est que, au lieu de se faire un marché chacun d'entre nous sur c'est la faute de l'autre ou c'est la faute d'un mauvais travail de l'un ou de l'autre. Moi, je pense que ce que j'essaye de faire, et Marseille, c'est une ville où on peut le faire, c'est une transversalité, une optimisation.
Bah déjà, parler voilà. ensemble, et c'est ce qu'on commence à faire ce soir sur ce plateau.
C'est pour ça que je suis venu.
J'imagine que vous ne nous avez pas attendu pour ça. Peut-être Fatih Young ou Joseph Ponceau, justement, sur le SAMU, peut-être une réaction, un commentaire, quelque chose à ajouter sur le fonctionnement du SAMU social à Marseille. Joseph Ponceau.
Bon, on n'est peut-être pas trop d'accord, sur l'analyse qu'on peut faire. Alors, c'est peut-être pas électoraliste en direction des personnes qui sont à la rue, oui, mais c'est électoraliste en direction des personnes qui sont commerçants et qui n'ont pas envie d'avoir des clochards devant chez eux. Donc, j'aimerais au moins qu'on prenne acte que cette volonté-là n'est pas tout à fait une volonté dénuée de tout intérêt électoraliste.
Ça, c'est mais peut-être que les SDF votent ?
Non. Alors, ils votent pas. Ils votent pas parce que pour voter... Il faut
un domicile.
Il faut d'abord avoir un domicile, mais c'est surtout qu'il faut pas seulement qu'on leur envoie dans leur figure les devoirs qu'ils ont, mais en même temps les éclairer sur leurs droits. Voilà.
Alors, Patrick Perret, je vous en prie.
Oui, je voudrais simplement dire, je suis tout à fait d'accord avec... comment vous avez dit en anglais ? Je ne suis pas doué par l'anglais.
Housing first, la maison d'abord, le toit d'abord.
Oui, le toit d'abord et ensuite, c'est possible, le travail. Parce que je mets quiconque au défi de pouvoir travailler et dormir dehors. Pour se reposer, pour se nourrir, pour faire sa toilette est impeccable. Bon. Moi, je parle en tant qu'ancien élève, parce que la madrague, je l'ai fréquentée pendant des mois et des années. Il y a quelque chose aussi, il faut que... CSF, il y en a quand même qui sont prêts à avoir un logement. Moi, je suis partisan du logement indépendant. Vous allez me dire que je parle pour moi, puisque maintenant j'en ai indépendant, c'est vrai. Mais faire, peut-être le hameau, et encore. Mais là, je pense par exemple à mon ami qui est à côté, qui représente Emmaüs. Oui, sortir des gens de la rue et leur donner un logement. Mais si c'est pour les embrigader ensemble, on ne peut pas remplacer un embrigadement qui va être le SAMU social ou autre par un autre embrigadement qui va être le logement.
Patrick Perret, pardon de vous couper, mais peut-être et de vous ramener sur des souvenirs sans doute pas très joyeux, mais quels souvenirs vous gardez de l'UHU de la Madrague vous-même ?
C'était vraiment... le racket, bien sûr, le racket est roi. Déjà même, il y en a qui se mettent à la porte pour arrêter les petits vieux qui rentrent le 5 ou même pour les cigarettes. Ouais, bon. Peut-être par moment, dans les chambres, là, 2, 4, 6, on s'est retrouvés, il y a des chambres où il y a 8 lits en superposé. Bien sûr, au début, lorsque j'y allais, on a nous avions une carte à faire poinçonner à l'entrée, aller voir le médecin, pour ce qu'il voulait, et la douche obligatoire. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que la douche n'est plus obligatoire. Donc, avant, si vous ne preniez pas la douche, vous n'alliez pas au réfectoire. Vous aviez des algécos dans le fond pour ce qu'on appelait vraiment les clodos, si vous voulez. Ouais, et puis, ils ne rentraient pas au réfectoire. Maintenant, c'est terminé. Quelques souvenirs. Bah, ça, on ne peut pas dire qu'on y va de gaieté de cœur, bien sûr. C'est toujours mieux que la rue, parce que c'est quand même moins dangereux. Bien sûr qu'il y a du vol, oui, mais moins que dans la rue, parce que dans la rue, vous pouvez vous faire taquer par une dizaine de gars et vous piquer jusqu'à vos sacs de couchage et tout. J'ai eu la chance, bien sûr, d'avoir ce logement par une association qui est à Marseille, que je vais dire après, parce que je n'ai pas mes bonnes lunettes.
Peut-être que M. Bourguin peut vous aider à décrypter.
Vous n'oubliez pas le nom. Service logement.
De l'HPF,
oui.
Association hospitalisée pour les femmes, 15 rue Honora, c'est ça ?
C'est ça, oui. Qui ne s'occupe pas obligatoirement. C'est-à-dire que le foyer pour les femmes seules, les femmes battues, les femmes droguées et tout, mais ce service logement s'occupe de tout, les célibataires des couples. Et moi, j'ai pu avoir ce logement, et encore pas n'importe où, rue Saint-Pierre quand même. C'est-à-dire que le logement où j'habite s'appelle l'Élysée, ça j'y peux rien. De la rue à l'Élysée, il fallait quand même le faire.
Monsieur le Président, merci beaucoup.
Oui, je l'ai rencontré d'ailleurs, c'est vrai.
Bon, là, c'est je vous propose histoire. Qu'on reste encore quelques instants sur cette question de l'UHU, l'unité d'habitation d'urgence.
J'ai fait les deux, puisqu'il y a, ça, il y a là aussi.
On peut peut-être...
Bon, il y a Saint-Jean-de-Dieu aussi, qui est moins connu, à deux pas de la Joliette, et qui est aussi un accueil d'urgence. Où là, il faut payer symboliquement, c'est pas idiot, 50 centimes. Mais la personne a payé pour rentrer. Vous voyez, elle n'a pas été hébergée. elle a payé son droit. On lui manque que 50 centimes, mais bien, très bien. Mais elle a donné 50 centimes pour pouvoir bénéficier du repas et du lit. C'est-à-dire qu'elle se sent moins assistée. Et ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, il y a que, oui. Oui.
Mais uniquement des hommes, disait oui. Michel
oui,
Bourgard.
Oui, absolument, oui.
Alors, cette unité d'hébergement d'urgence, il a été créé en 1994, mais il a connu depuis quelques vicissitudes, et notamment un dépôt de bilan de son gestionnaire, l'AICS, en 2010. Une reprise en 2011, on l'a vu, par l'armée du salut, mais sans le centre de santé. Michel Bourgard, quelques mots pour expliquer ces problèmes de gestion un peu calamiteux de l'UHU.
Alors, je vais commencer par une petite histoire, c'est que avant l'UHU, moi j'ai été à la mission France de Médecins du Monde et nous avions une structure à côté de l'armée du salut d'ailleurs, que j'animais en tant que médecin, nous étions 4 ou 5 à le faire, bénévoles évidemment. Ensuite, création de l'unité d'hébergement d'urgence, certainement dans des conditions assez difficiles qu'a dû connaître notre ami qui en parlait tout à l'heure. C'est toujours des conditions difficiles. Alors, il y a eu une première gestion où il y avait des problèmes parce que les êtres humains sont pas parfaits. Ensuite, lorsque je suis arrivé, AICS a repris la gestion. Sur le papier, ils étaient parfaits. C'est-à-dire, agence immobilière à caractère social. Ils avaient un parc de location et ils s'occupaient beaucoup de social. On s'est aperçu à l'usure qu'ils n'avaient pas les épaules, ils ont fait quelques erreurs financières, aussi des erreurs qui m'ont bien étonné à l'époque, enfin moi qui ai toujours été un grand bénévole sur ces sujets d'ailleurs, il y avait des gens qui émargeaient à des salaires assez corrects.
Mais est-ce que la ville n'exerçait pas une forme de tutelle sur la gestion de cette structure ?
La ville s'est très rapidement aperçue qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Nous avions un déficit qu'on a réussi à combler, justement, à retravailler. Donc l'armée du salut a été approchée, nous a soutenus, est venue. Et ensuite, bon, nous, on a comblé, on va dire, le problème de mauvaise gestion qu'il y avait. L'armée du salut est venue. Depuis, elle gère. On essaye. Vous savez qu'on a ouvert d'ailleurs une école qui est dévolue aux femmes. Parce qu'avant, notre UHU, alors effectivement, par rapport à Forbin, hébergeait déjà des femmes et des hommes. Mais vu l'augmentation du public féminin et vu la grande précarité et la déstructuration des publics, ça devenait très, très difficile à gérer le mélange homme-femme. Donc nous avons ouvert cette année une cinquantaine de lits uniquement pour les dames qui puissent se reposer, qui sont seules, qui sont gérées par des gens qui connaissent le public féminin et qui ne sont plus mélangées. Parce que l'UHU, quand notre ami Perret disait que c'était le racket, oui, c'est quand même très, très dur. Alors,
on a aussi parlé de cas de viol.
Je termine. Oui, absolument. L'UHU, c'est, on le raconterait dans un film. Je pense qu'on n'aurait plus besoin de voir des séries américaines. Hein, c'est quelque chose d'assez terrible. Simplement, nous, on essaye de l'humaniser. Il y a un projet d'humanisation. Moi, 16 personnes dans une chambrée, ça me semble intolérable, autant à moi qu'à n'importe qui. Et le but de base, si vous voulez, dans tous les cas, dans le mandat où je suis, c'est très rapidement d'arriver à des chambres de 2 et de 4, vraiment, s'il y a des à-coups. Donc l'humanisation est sur les rails. J'espère, on a des budgets. J'espère que ces budgets ne s'évaporeront pas avec les mauvais résultats ou avec les difficultés financières des uns et des autres. Moi, je reste toujours à mon petit poste. Vous savez, j'essaye de faire ce qu'on m'a télécommandé de faire à la mairie, qui me semble quelque chose de correct, de sain.
J'essaye de gérer. Quand même, hein, voilà, c'est aussi votre responsabilité.
J'essaye simplement de venir et que cette UHU fonctionne, que les gens, il y ait le moins possible de gens qui dorment dehors, que ces gens ne soient pas uniquement dans une voie de garage du matin du soir au matin et puis qu'on les rejette à la rue. Ça, on est obligé, c'est le cahier des charges, mais qu'il y ait un travail social, qu'il y ait des récupérations et que quelque part, ça soit le début, même si ce n'est pas parfait, d'une remontée sociale. Ça, c'est vraiment le but.
Et l'idée de travailler cette UHU différemment et par exemple d'utiliser l'exemple prodigué par le hameau, c'est-à-dire le scinder en plusieurs structures qui seraient présentes en différents quartiers de la ville ?
C'est une idée qui ne m'est pas, étrangère ni que je trouve malsaine. Au contraire, on est bien d'accord. L'idéal, ça serait de retrouver les conditions du hameau, surtout quand on tombe sur les gros déstructurés, le grand marginal ou le grand précaire. C'est la solution du hameau qui marcherait le mieux. Après, on a des jeunes qui viennent, qui des fois sont surprenants, parce que quand vous les voyez, vous n'avez pas l'impression d'avoir des SDF. Ils sont à peu près habillés normalement, ils maintiennent une propreté corporelle. Et comme ils n'ont pas assez d'argent, ils viennent dormir à l'unité d'hébergement d'urgence. Cela, il faudrait trouver des solutions autres, les foyers de jeunes travailleurs. Ou... Bon, après, il y a les gens âgés, qui pour moi, théoriquement, devraient être tous tôt ou tard sur des établissements publics pour personnes âgées. Et puis, il y a l'accidenté du trottoir, comme je dis, c'est-à-dire celui qui, des fois, a été médecin, a été avocat, a été... J'ai même vu un jour un chirurgien. Et puis, pour des raisons de fragilité, de drame dans la vie, c'est des choses que je connais bien parce qu'elles m'ont toujours passionné. J'en ai vécu un, moi, donc je sais comment on peut descendre. C'est une des raisons pour laquelle je me suis investi. Bon. Se retrouvent à la rue et puis se mettent à boire, et puis se mettent à se droguer. Alors cela, les conditions économiques, même si elles étaient bonnes, ça ne les sauverait pas. Donc ça, cela aussi, il faut travailler sur le plan psychiatrique. On a 30% à 40% de notre public, qui est de nos hébergés, qui sont psychiatriques. Donc si vous voulez, j'ai eu la chance et l'honneur d'être 12 ans le généraliste de l'hôpital Édouard Toulouse. C'est des choses que je connais. Donc dans les explications, il y a effectivement le côté économique, mais il y a aussi le côté humain, le côté psychologique, le côté dérive. Et puis aussi le fait que bon, les jeunes ne sont pas soutenus. C'est vrai que le monde du travail, il faut qu'il soit ouvert aux jeunes, que ces jeunes... Bon. Et puis les femmes, qui sont de plus en plus un public qu'on voit grandir, et les personnes âgées, parce qu'avant, on mourait tôt. Déjà, on meurt tôt dans la rue. Mais maintenant, on meurt tard. Hein, et il y a des gens de 80...
Une espérance de vie dans 80, la rue, il faut le rappeler, qui est de 85, l'ordre de 40 ans.
Voilà. Et 85 ans, on a vu des gens avec des cardiopathies, des stents, hein, rester. On les garde même ceux-là. On ne les met pas à la rue, évidemment. Le matin, on les garde un petit peu parce que 84 ans, quelqu'un qui a eu un cœur fatigué, vous ne le laissez pas dans la rue.
Restons encore un instant sur cette question des lieux d'accueil. L'UHU, unité d'hébergement d'urgence, est située chemin de la Madraxville, pas tout à fait dans le centre-ville, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que cette question de l'éloignement des lieux d'accueil, elle est très sensible pour les SDF, pour les sans-abri. La nécessité d'être au centre-ville aussi, pour des raisons de sécurité, parce que c'est un endroit passant, on a moins de chances d'être attaqué. Et puis aussi, parce que c'est là qu'on peut faire la manche et qu'on peut concrètement récupérer quelques subsides. Or, précisément, dans les rues passantes du centre-ville de Marseille, on va peut-être voir de moins en moins de SDF, puisque le 17 octobre 2011, incitamment, c'était le jour de la journée internationale ou journée mondiale de lutte contre la grande pauvreté, a été pris à Marseille un arrêté contre la mendicité, et que cet arrêté a été confirmé encore récemment, je crois la semaine dernière, et donc qui interdit la mendicité dans un certain nombre de quartiers et d'arrondissements de Marseille, notamment évidemment les quartiers du centre-ville et des quartiers sud, donc des quartiers dans lesquels on peut arriver à faire la manche. On peut je crois, être dans la rue, dans les quartiers
nord. Que je puisse mettre l'aversion de la ville. Après, tout le monde me connaît comme capable d'écouter chacun. Je refuse et je récuse le mot « arrêté anti-mendicité ». Il s'agissait, à la demande du préfet, c'est le préfet qui a obligé, on va dire, le maire à avoir cet arrêté. Cet arrêté est sur une zone de sécurité prioritaire. À l'époque, c'était la structure qu'on mettait en place pour avoir le plus de sécurité dans le centre-ville. Et cet arrêté visait les conduites addictives, dangereuses, les conduites agressives, y compris éventuellement de la mendicité, mais à aucun moment il s'agit d'un arrêté anti-mendicité, et surtout pas du tout sur tout le territoire de Marseille, mais bien uniquement sur le territoire de zone de sécurité prioritaire, et celui qui tend la main à la sortie de l'église n'a jamais ou ne sera jamais inquiété. Mais celui qui, avec un Rottweiler ou avec ou simplement sous l'emprise de l'alcool et ou de drogues excitantes, vient faire une conduite agressive, voilà ce qui était jugé. Et pour terminer très vite, il fallait cet instrument aux policiers pour qualifier un acte d'agression. Point final. Je récuse quand même le terme anti-mendicité.
Alors, Joseph Ponceau, quelques mots de Fatih Bouara, de la Fondation Abbé Pierre, qui disait, à propos de cet arrêté, c'est lutter contre les pauvres et non contre la pauvreté. Peut-être une réaction à propos de cet arrêté, puis de ce que vient de dire M. Michel Bourga.
Quelles que soient les intentions, Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on embête un peu les personnes qui font de la mendicité dans le centre-ville. Après, il est possible que, sous la pression d'un préfet, le maire de Marseille prenne un arrêté.
Dans le cadre d'une politique nationale très sécuritaire.
Aussi. Mais il ne me semble pas que le 16 octobre de cette année, le préfet ait réitéré sa demande. De plus, il ne me semble toujours pas que le préfet ait décidé d'éliminer une partie des zones géographiques qui avaient été désignées l'année dernière pour les remplacer par d'autres zones géographiques, bien entendu, on va dire, dans des quartiers du sud de Marseille. Ce qui me menait à la première réflexion que je faisais tout à l'heure. On est bien dans une tradition électoraliste où on va essayer de faire plaisir à ceux qui payent des impôts en leur disant, voilà, je vous garantis cette sécurité-là. Après, effectivement, nous, on considère qu'on se trompe d'ennemi. Et l'abbé Pierre le disait, on ne fait pas la guerre aux pauvres, on doit faire la guerre à la pauvreté.
Patrick Perret, vous vouliez réagir.
Oui, je signale que cet arrêté a été appliqué à Marseille une fois par un SDF que j'ai rencontré, qui en a parlé dans la presse d'ailleurs, et qui était très connu parce qu'il dormait bien souvent sous le kiosque réformé. Et il s'est pris le PV qui était de 30 et quelques euros d'amende. Ça a fait une presse. Il y a eu les gardes champêtres, c'est-à-dire c'est la police municipale, ou c'est leur vrai nom, qui sont venus leur mettre leur PV. Maintenant, je me demande si ces quartiers qui sont bien définis anti-mendicité, qu'est-ce que ça va donner pour 2013 ? Parce que c'est pratiquement toute la ville qui va être interdite de mendicité.
Eh bien, les grands esprits se rencontrent, et c'était justement la question que j'allais poser. Michel Bourgat, 2013, c'est évidemment la grande échéance pour Marseille en ce moment. On attend un grand nombre de touristes, on veut donner de la ville l'image la plus extraordinaire possible. Est-ce que ça va conduire ou aggraver cette situation à l'égard des sans-abri, aggraver dans le sens qu'on va vraiment les prier d'aller voir ailleurs ?
Alors, moi, vous savez, 2013, je l'attends avec un peu anxiété, parce que c'est pas du tout dans ma délégation. Donc je laisse travailler mes collègues sur le plan de la culture. On va parler de la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose que malheureusement j'ai eu l'occasion de mesurer il y a quelques années. C'est un problème qui touche tout le monde. C'est un problème que les ministres de gauche et les ministres de droite que j'ai vus se succéder dans ma longue carrière de médecin des quartiers nord, c'est quelque chose que tout le monde veut. Donc de toute façon, il ne faut pas croire qu'on combattra la pauvreté en éliminant la sécurité. Et je vois que M. Valls ou M. Guéant ont quelque part les mêmes attitudes, simplement parce qu'elles sont logiques. C'est comme en médecine, quand il y a une pathologie, on essaye de déterminer où est le virus, où est le microbe, où est la pathologie, et on essaye de la traiter. Les grands précaires et les grands marginaux ne sont pas facteurs d'inquiétude, même pour les spécialistes de la sécurité. Et moi, il y a très longtemps que je sais que je ne crains pas un SDF ou je ne crains pas un grand précaire. Je crains des fois quelqu'un qui roule en BMW et qui se balade avec des gros billets et des barrettes de shit. Et celui-là n'a rien à voir avec un SDF. Ce que je tenais simplement à dire, c'est que la politique de la ville de Marseille sur le plan des SDF, on n'a pas à rougir. Moi, à chaque fois qu'il a fallu, le maire m'a donné ce mandat, donc je dis « je », mais je travaille sous le contrôle d'un maire, hein, comme chaque élu, petit élu local, et je ne revendique aucun autre poste. Le mandat que j'ai, c'est d'essayer que les SDF soient le moins en danger possible pour eux, sur n'importe quel territoire, que ça soit à l'Estac ou que ça soit sur la Canebière. Et le SAMU social, il essaye dans le volontariat. Jamais, je me suis opposé à l'époque à ce que disaient M. Sarkozy et Mme Boutin, on ne prend pas de SDF de force. On essaye de les convaincre de venir. Alors c'est dur de convaincre de venir quelqu'un. C'est pas un 4 étoiles, effectivement. C'est même pas un 2 étoiles. C'est même pas un hôtel de bas niveau. C'est dur, là, l'unité d'hébergement d'urgence. Mais voilà le mandat que j'ai. Ma collègue Caroline Posementier, qui s'occupe, elle, plus des problèmes de sécurité, elle avait comme mandat d'avoir, que ça soit précis, quand on arrête quelqu'un, il faut que la qualification soit précise. Tendre la main sans agressivité n'est pas interdit en France et n'est pas interdit par l'arrêté du maire de Marseille. Essayer d'obtenir de l'argent.
Qu'est-ce qui est interdit concrètement?
Ce qui est interdit, c'est la conduite agressive. C'est-à-dire menacer quelqu'un, c'est-à-dire sous l'empire de l'alcool ou l'empire de la drogue, d'avoir des gestes dangereux pour le citoyen qui se promène dans le secteur et même dans n'importe quel autre secteur d'ailleurs. Voilà ce qui est visé par l'arrêté du maire à la demande.
Mais finalement, ça n'est rien d'autre qu'un trouble à l'ordre public. Absolument. Il n'y avait pas besoin de faire une loi spéciale.
Non, il fallait, pour qualifier certains actes, il fallait malheureusement avoir cet arrêté précis de conduite agressive. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les juristes vous répondront mieux que moi. Mais moi, ce que je peux vous dire, pour conclure vite, ce que je peux vous dire, c'est que Marseille, et donc le maire est dans ma délégation, nous ferons toujours tout pour que le SDF soit d'abord respecté comme être humain, amené à se mettre à l'abri, en espérant que la mise à l'abri qu'on lui offre soit la plus digne possible. Et ça, c'est une politique que je fais depuis 2008 et que je continuerai jusqu'en 2014.
Fatih Young ou Cécile Roca, peut-être sur cette question, quelque chose à ajouter? Ou sinon, Cécile Roca?
Un peu rapidement, c'est vrai que vivre à la rue est une réelle insécurité. On parle de la politique de sécurité globale, mais on connaît à quel âge on meurt quand on vit à la rue. Et très concrètement, enfin, je veux dire, ce sont des personnes qui méritent protection. Et en même temps, de fait, il y aura tout juste 20 ans que le délit de vagabondage a été aboli. Et on se rend compte que le fait, on parlait de mettre les personnes à l'extérieur de la ville, ça existe à Paris avec Nanterre, ça existe à Marseille avec d'autres centres un peu loin. Ça existait à Nice.
Je vais vous dire, ça existait à Nice, à Marseille. On n'a jamais raccompagné quelqu'un à l'extérieur comme a fait monsieur médecin à Nice, ce qui est pour moi ignoble. Et je le dis, même si ce monsieur avait l'air d'être plus proche politiquement de moi, je ne suis pas d'accord. On n'a jamais raccompagné et on ne raccompagnera jamais un SDF loin de Marseille. D'ailleurs, malheureusement, les SDF des alentours de Marseille viennent chez nous parce qu'ils savent que chez nous, il y a au moins quelque chose.
Cécile Roquin.
Alors, une autre phrase qui m'a marquée, que vous avez employée tout à l'heure, qui était de traiter un gros volume de malheurs, en parlant du SAMU social. Et il me semble, en tout cas c'est l'expérience après 30 ans de travail de rue ou à peu près, que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont toutes dans une individualité et que ce n'est pas de traiter un gros volume qui aide les personnes à avancer. Alors peut-être que je me trompe, si vous voulez, mais dans les expériences qu'on a vues, il faut multiplier une grande diversité de modes d'accueil. Le hameau en fait partie. On en connaît d'autres à Paris avec les enfants du canal ou d'autres. Mais il faut une très grande diversité.
Fatih Young.
Oui, pour aller dans ton sens, en fait, les séquelles de la rue, elles sont énormes. Et 10, 15, 20 ans de rue. Alors aussi, peut-être pour revenir à ce que tu disais sur le logement d'abord. Moi, j'ai un avis très partagé à ce niveau-là. On a pu s'apercevoir que les personnes qui venaient au hameau, au bout d'un mois, voire deux grands maximum, quand elles étaient posées et qu'elles étaient plus dans une survie quotidienne, c'est le corps qui pétait et toutes les pathologies possibles, inimaginables, on a dû traiter. Voilà. Donc du coup, alors là, je suis obligée de faire très vite parce qu'on pourra. Enfin, c'est vraiment un sujet la survie à la rue une mise à l'abri, juste un toit pour la nuit. Pour moi, ça n'a pas de sens quand la personne elle retourne dehors le lendemain à 9h ou à 10h parce que c'est des vieilles coutumes d'époque, c'est oui. Asile de nuit. À l'époque, il y avait du boulot, mais aujourd'hui, il n'y en a plus du boulot. Donc les gens errent comme ça. Je m'éparpille un petit peu, mais pour le logement d'abord, il y a des personnes... Ça ne conviendra pas à tout le monde. On ne peut pas faire une généralité de ce logement d'abord. Ça peut convenir à des personnes... effectivement, qui sont encore inscrits dans une logique d'insertion, avec des soins, s'ils en ont besoin ou pas. Pour des personnes qui sont vraiment très loin dans un cursus déjà très loin dans la rue...
Mais c'est pas la majorité.
C'est une, une grande majorité dans la rue de personnes qui, quand on met... Deux secondes. Quand on réoriente, par exemple, d'un CHRS une personne dans un logement autonome, il y a des personnes qui reviennent manger au CHRS parce qu'elles se sentent seules, parce que si. Donc il y a des passerelles peut-être à imaginer avec ce logement d'abord. Voilà.
Moi, Patrick Perret.
Oui, c'est vrai que j'ai vu avec l'assistante... L'assistante sociale qui m'a trouvé le logement, c'est bien parce qu'on va me choisir. Je l'ai pris au bout du troisième logement parce que les deux premiers ne me plaisaient pas, bien pour question de santé. Enfin, ouais. Qui me disait, tu ne te rends pas compte, il y en a qu'on trouve le logement, c'est vrai, on s'est aperçu qu'en plein hiver, ils dorment la fenêtre ouverte chez eux et dans le sac de couchage. C'est vrai, parce que quelqu'un qui a passé 10, 20 ans dans la rue, ça va se sentir peut-être paumé dans un logement. Certains, mais oui, certains vont avoir besoin du hameau, vont avoir besoin des foyers Emmaüs, mais je dis que ce n'est pas la majorité, je connais pas mal. Évidemment, j'ai plus contact des fois avec des gens comme moi qui sont sortis de la rue, et on peut s'en occuper, on peut leur dire, tu vois, quand tu sors, ce que je leur dis, faut que tu sois la douche tous les jours chez toi, propre et tout, l'alcool. De toute façon, s'ils ne quittent pas l'alcool, c'est pas la peine de lui donner un logement, ça sert à rien hein, s'ils ne terminent pas l'alcool à 100%. Aussi, ce que je voulais dire, 30 secondes, et après je vous laisse la parole, tant que dans un gouvernement, dans une mairie, quelle que soit la couleur politique, je m'en fiche, il n'y aura pas, à côté du ministre, si vous voulez, ou du maire, ou de l'adjoint chargé de l'aide sociale et tout ça, quelqu'un, un ancien, j'ai bien un ancien, qui sort de la rue, impeccable et tout, qui puisse lui expliquer comment ça se passe dans la rue, comment sauver ces personnes. Le jour où il y aura ça, à côté du ministre ou de l'adjoint, il y aura déjà un grand coup de fait. Sortir des grandes écoles ne suffit pas.
Très, très rapidement, Michel Bourgat.
D'abord, je tenais à répondre même au nom de Mme Fatih Young, parce que moi, ma grande surprise, c'est d'avoir appris que certains qui buvaient beaucoup au hameau, quand ils sont arrivés au hameau, au bout de quelques temps, ont diminué considérablement, voire à 95% leur consommation d'alcool. Donc, ça existe. Par contre, pour répondre à madame qui s'occupe des morts de la rue, alors d'abord, moi, j'ai été très sensible quand les morts de la rue sont venus me voir à la mairie. Et depuis, alors c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais nous commémorons les morts de la rue chaque année au SAMU social, au moins au chaud, avec des gens, on fait venir tout le monde. Et quand je voulais parler de gros volumes, vous savez, quand on est médecin, on peut soigner des épidémies et on est obligé d'avoir des grands volumes de vaccins, des grands volumes. Moi, je suis encore à ce niveau-là. Ça m'empêche pas que lorsqu'un grippé a un problème de dépression nerveuse, je vais aussi le soigner ponctuellement. Mais je m'occupe des gros volumes parce que j'ai pas le choix, parce que pour le moment, c'est ça mon problème. C'est des gros volumes.
Alors, je voudrais qu'on ne termine pas ce plateau et cette discussion sans aborder justement ce qui fait un peu l'initiative de la tenue de ce plateau, c'est-à-dire les terres communes, c'est-à-dire l'inhumation des SDF à Marseille. Les terres communes, c'est les carrés des indigents au cimetière Saint-Pierre. Alors Patrick, peut-être quelques mots sur l'entretien de ce lieu. Alors, oui. Ça ne correspond pas à la délégation de Monsieur Bourgat. Donc,
non, c'est monsieur, il n'est pas là, malheureusement.
On n'a pas pu inviter tout le monde, mais en tout cas, quelques mots sur ce lieu et la manière dont il est entretenu.
Maintenant, c'est carrément épouvantable. J'ai moi-même, ce n'est pas télévisuel, je ne vous ai pas amené un reportage photographique complet sur l'enterrement d'un SDF. C'était épouvantable. La terre est remise dessus. Je vous assure que par moment, on trouve des morceaux de omoplate ou de tibia dans les allées. Il y a eu un moment où, ça existe toujours, il y avait ce qu'on appelait les pierres blanches. C'était vraiment des caveaux cimentés et tout, avec des pierres blanches dessus, ce qui n'était pas formidable, mais qui quand même était plus respectable que là. C'est vraiment vous avez la pelleteuse qui creuse le trou, pendant que devant, on enterre dans le SDF, et on met... Moi, j'ai les photos... Le cercueil ne descend même pas droit, il descend en pente comme ça, il est attrapé par un crochet sur le côté, c'est abominable. Et un cercueil en bois blanc... vraiment un cercueil ordinaire, c'est-à-dire qu'il vaut 450 euros, je me suis renseigné, c'est-à-dire le montant du SDF. On dirait que la personne morte dans la rue a payé son cercueil avec le reliquat de son SDF. Alors qu'un cercueil en chêne coûte 1500 euros. Je demande au représentant de la mairie s'il ne pourrait pas, minimum par respect pour cette personne qui est morte sous X, je savais qu'on pouvait naître sous X, je ne savais pas mourir sous X, un cercueil en chêne. Le moins cher vaut 1500 euros. Pour 4 ou 5, c'est déjà trop, SDF qui meurt dans la rue à Marseille, ce cercueil en chêne. 1500 euros, ça vaut à peu près ce que représente un buffet pour une remise de légion d'honneur.
En tout cas, il y a certainement un questionnement à avoir sur l'entretien de ces parties, de ces terres communes à Marseille. On arrive au terme de ce plateau, de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Fatillon, Michel Bourga, Patrick Perret, Jo Ponceau et Cécile Roca. Quelques mots sur les prochains rendez-vous à venir. À noter le mardi 24 octobre à 20h au cinéma L'Alhambra, présentation de Terre commune, remontage par Emmanuel Vigier et Renaud Verset. Et je vous rappelle l'adresse du webdoc, c'est terrecommuneaupluriel.fr. À voir Vivre dans la rue à Marseille sur le site chezalbert.fr avec un reportage qu'on a évoqué tout à l'heure de Stéphanie Arougnan sur le hameau et qui sera diffusé à 17h10 sur La Grenouille. Et puis à suivre, la soirée se poursuit ici au Transistor, hors antenne, avec la projection de deux films, un film qui s'intitule Ici de Laurent Tivol et l'autre Ernest de Cécile Savoldelli. Et sur l'antenne de Grenouille et jusqu'à la fin de la semaine, de nombreuses émissions, grand entretien, un plateau encore demain à cette même heure, 18h. Tout le détail de la programmation et les émissions à réécouter en podcast sur radiogrenouille.com. On se quitte avec Millimétrique, un morceau qui est intitulé « Hommage aux gens qui n'intéressent personne » avant tout à l'heure, à 19h dans quelques secondes, rejoindre le Coton Club. Merci à tous.